OK, on continue notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Ce soir, on va voir la discipline du service. On va la regarder, on va voir trois points principaux. La première, c'est le service, c'est un devoir qui est exigé de tout chrétien. On va voir des versets qui nous le montrent. Le deuxième point qu'on va regarder, le service. Tout chrétien a reçu un don spirituel pour servir. On va essayer de démêler un petit peu la différence entre un don naturel puis un don spirituel. Quand le Seigneur nous sauve, la Bible nous apprend que le Saint-Esprit donne à tous les chrétiens, sans exception, un don spirituel. La personne, même si elle ne sait pas quel don qu'elle a, elle l'exerce automatiquement. Et la Bible nous encourage à découvrir notre don. Et quand on le connaît, de l'exercer avec le plus d'intelligence possible et le plus d'efficacité possible. Une des façons d'exercer son don, c'est d'être présent dans l'assemblée. C'est aussi simple que ça. Parce que si on a un don, puis qu'on n'est pas là, je vois mal comment les autres peuvent recevoir les bénéfices de ton don. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est que le service, c'est un travail qui est difficile. Il y a des aspects difficiles au service, surtout sur le long terme. Quand tu commences, des fois, tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme on dit. Mais avec le temps, des fois, ça s'émousse, ça devient plus difficile. Et il y a des périodes où, moi, je le sais par expérience, puis je le sais aussi pour avoir entendu d'autres pasteurs, par exemple, juste dans le rôle de pasteur, des fois, les premières années, tu peux trouver ça bien drôle. Puis à un moment donné, le temps finit par user. Et ça devient, à un moment donné, tu sais, des fois, tu as envie de tout foutre en l'air. Et ça fait partie du service, qu'il y a des moments dans ta vie où si tu t'écoutais, tu ficherais tout en l'air. Et la Bible nous dit qu'on ne doit pas te faire ça. Mais à quelque part, c'est de se rendre compte que le service, il y a un aspect difficile à ça. Peu importe le type de service qu'on fait dans une église. Pour illustrer sa leçon sur la discipline du service, l'auteur et pasteur Donald Whitney, dans son bouquin Spiritual Disciplines for the Christian Life, utilise l'histoire de l'entreprise américaine Pony Express, qui a existé pendant seulement 17 mois, de 1860 à 1861. Cette entreprise s'était donnée comme mission de distribuer rapidement le courrier aux États-Unis à l'aide d'un grand réseau de cavaliers rapides. Alors, il s'est organisé un immense réseau. Bien entendu, si tu voulais que les lettres circulent, il fallait des hommes à cheval qui circulaient. Alors, le cavalier se devait de transporter du courrier sur une distance de 75 à 100 000 par jour. C'est un peu comme si tu partais d'ici à cheval, puis tu montes dépasser Sherbrooke, puis c'est quasiment encore la moitié, 100 000, c'est dans une journée, à cheval, à dos de cheval. Et ça obligeait le cavalier à changer de cheval à tous les 15 à 25 000. Alors, l'auteur, il reproduit une annonce qu'il y avait dans les journaux de l'époque à San Francisco en 1860. Voici ce que l'annonce disait. Demandez, en anglais c'est wanted, jeune cavalier expert, mince et nerveux, autour de 18 ans et volontaire pour livrer du courrier. Comporte des risques quotidiens. Comprends pourquoi ça comportait des risques quotidiens. À l'époque, il y avait des Indiens. Il y avait toutes sortes de risques à te promener. Et ça disait orphelin avantagé. Autrement dit, pour te faire engager, si tu étais orphelin, tu avais des chances parce que, autrement dit, pour eux, la compagnie, ça devait être moins de troubles quand tu es un orphelin. Mais là, tu n'as pas besoin d'aller voir la famille. C'est intéressant quand même. Alors, l'entreprise n'a jamais manqué de cavaliers volontaires, même elle a dû fermer ses portes à cause de l'invention du télégraphe. Pourquoi ça n'a pas duré? C'est parce que le télégraphe est arrivé, puis là, les gens avaient trouvé une façon plus commode probablement moins dispendieuse et plus rapide. Le télégraphe, c'était quasiment instantané comme le téléphone aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était comme organiser un immense réseau de postes à travers les États-Unis avec des chevaux. Ça, les 15 à 100 000 par jour, c'était spécial. Alors, l'exemple nous est donné pour nous rappeler que le service au Seigneur est aussi coûteux, exigeant, comportant lui aussi des risques et exigeant un engagement à long terme. La différence avec Pony Express, c'est que le travail n'arrêtera jamais à cause d'un progrès technologique. Peu importe les progrès technologiques qu'il y a, ça n'arrêtera jamais le service au Seigneur. Ça a commencé quand le Seigneur est venu sur la terre, et même avant, les prophètes servaient Dieu. Le service au Seigneur pourra être public ou caché. Alors, certains servent sont en public, sont vus, sont d'autres, c'est vraiment du service caché. Ils vont faire un paquet de choses pour le Seigneur, mais pas grand monde savent ou sont au courant de tous les efforts qu'ils peuvent fournir. Ou ça peut être un service qui peut être apprécié par beaucoup de gens ou complètement ignoré. Ça arrive. Alors, il donne l'exemple, l'auteur, il dit « Comme un iceberg, seul le Seigneur lui-même verra complètement toute la partie submergée, celle qui est non vue et celle qui est non appréciée des hommes. » Alors, des fois, les gens voient une petite partie du service qu'on fait, mais ils ne voient pas tout ce qui est en dessous. J'aimais bien l'expression dans le temps, il nous disait « Quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, des fois, c'est comme un canard. » Tu le vois à la surface, il a l'air à voguer bien tranquillement sur l'eau, mais les petites pattes en dessous, là, ils se font aller pas mal. Alors, c'est un peu ça. Alors, des fois... Alors, l'auteur mentionnait qu'il y avait deux péchés présents chez tous les êtres humains qui peuvent empêcher de servir le Seigneur. Le premier, c'est l'orgueil. On aime mieux être servi que de servir. Et le deuxième, c'est la paresse. Autrement dit, si je regarde mon expérience, ça fait quand même 40 ans, je peux parler un petit peu avec expérience, 40 ans que j'ai vu dans les églises des gens plus ou moins impliqués, quand tu regardes ça, puis parles-en à n'importe quel pasteur, ils vont toujours te dire « c'est tous les mêmes ». C'est sûr. J'entends quelqu'un qui me dit « c'est sûr ». Alors, c'est vrai, c'est toujours les mêmes, mais à quelque part, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que tout chrétien est appelé à servir. Et si on était vraiment dans un esprit de service, c'est qu'on n'attend pas qu'on vienne nous demander quelque chose. On a juste à s'ouvrir les yeux dans une assemblée. Les besoins sont énormes et sont nombreux et sont variés. Quand tu veux servir, tu n'as pas besoin de te creuser la tête pour savoir quoi faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, le premier point qu'on veut regarder, c'est que le service est un devoir qui est exigé de tout chrétien. Alors, dans la Bible nous enseigne que tout chrétien devrait servir dans son église locale. Hébreux, chapitre 9, verset 14. « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Afin, ça veut dire dans le but qu'on serve le Dieu vivant. Alors, tous les chrétiens, sans exception, dans une église, peu importe le degré d'instruction ou notre forme physique, même si on n'est pas en forme du tout, on peut prier. C'est déjà un service à l'église. Et bien souvent, ceux qui sont physiquement diminués, souvent ils vont exercer peut-être le don le plus, peut-être ils vont exercer le service peut-être le plus important dans une église, celui de prier. Si on savait l'importance et l'effet que la prière peut avoir dans une église, quelqu'un, par exemple, qui est âgé, puis qui prie beaucoup pour une église, qui prend chaque individu de l'église, puis qui prie pour lui à tous les jours, il fait ça à l'année. On n'imagine pas l'importance et l'impact qu'une chose pareille peut avoir dans la vie d'une église locale ou dans la vie des missionnaires. Des fois, on prie pour des missionnaires, Jackie et nous. Elle est loin, là. Elle est en Afrique. Mission prie pour elle. Le Seigneur, il fait quelque chose. Alors, elle, c'est l'ensemble des personnes qui prient pour elle. Puis plus on va prier pour elle, puis plus on va prier pour elle avec détail. Le Seigneur aime qu'on prie. Souvent, il nous envoie des lettres dans lesquelles... C'est surprenant de voir comment on est. Moi, je parle pour moi, là. Des fois, on reçoit ça, on met ça sur le tableau, puis ça reste là. C'est à peu près tout ce qu'on fait avec. Pourtant, elle nous mentionne des fois des 15 à 20 raisons, 15 à 20 demandes de requêtes, de prières. C'est là qu'on voit qu'on est manquant. Parce que les requêtes, on devrait les emmener chez nous et à tous les jours prier pour chacune des requêtes. Pensez-vous que c'est la même chose pour le Seigneur de dire « Je te prie pour Jackie Eno » ou bien non, de prendre chaque besoin puis de dire au Seigneur « Je te prie pour telle affaire, je te prie pour telle affaire. » Selon moi, la deuxième méthode est beaucoup plus efficace et celle que le Seigneur veut qu'on utilise. Donc, la Bible nous donne 6 motifs pour prier le Seigneur. Le premier motif, c'est l'obéissance, tout simplement. Le Seigneur nous commande de servir, et si on le fait, bien entendu, le motif, c'est l'obéissance. On regarde, par exemple, Deutéronome, chapitre 13, au verset 4. « Vous suivrez l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Bien entendu, on a pris un verset, des versets où Dieu nous commande, où Jésus nous commande de servir, il y en a plein. Alors, c'en est un entre autres. N'oublions pas que c'est la réticence et le refus de servir qui a amené certains anges à la rébellion contre Dieu et qui les a transformés en démons. Alors, l'auteur de l'hymne célèbre Amazing Grace, M. Newton, un ancien trafiquant d'esclaves, John Newton, illustre ce qu'est l'esprit de service. Alors, je l'ai juste mis dans la traduction Google qui fait un beau travail de traduction. Je suis surpris de voir la qualité de traduction de Google. Des fois, au début, j'avais pas trop confiance en ça. Mais de plus en plus, quand je trouve des textes comme ça, puis j'ai à les traduire, tu fais juste copier, tu les mets dans coller. Puis c'est surprenant de voir, des fois, la qualité de la traduction qui sort. Pas tout le temps, des fois, tu as besoin d'arrondir les coins un peu, mais il reste que dans l'ensemble, c'est surprenant. Alors, voici la traduction Google de ce que John Newton dit concernant l'esprit de service. Il dit, « Si deux anges devaient recevoir au même moment une commission de Dieu, l'un pour régner sur le plus grand empire de la terre, l'autre pour balayer les rues du plus petit village, ce serait pour eux une indifférence totale d'accomplir soit le poste de souverain ou le poste de balayeur, car la joie des anges ne réside que dans l'obéissance à la volonté de Dieu. » Il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Là. Il est en train de nous dire que pour les anges, ce n'est pas le côté prestigieux du poste que le Seigneur te donne ou non. C'est vraiment la joie d'obéir au Seigneur. Puis c'est vrai, si tu passes le balai dans une église, ou si tu nettoies la salle de bain, ou peu importe ce que tu fais, là, ça n'a pas d'importance autrement dit. Le Seigneur, il veut que tu le serves avec le don qu'il t'a donné. S'il t'a donné le don d'enseignement, ben, je ne te dis pas que tu ne devras pas nettoyer les toilettes. Ce n'est pas ça que je te dis, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que normalement, tu devrais utiliser le don que le Seigneur t'a donné. S'il est prestigieux, tant mieux pour toi. Puis s'il est secret, puis personne ne s'en rend compte de ce que tu fais, la joie qui nous provient, c'est vraiment l'obéissance. Donc, le premier point, l'obéissance, par obéissance. Le deuxième motif pour nous servir le Seigneur, c'est par gratitude. 1 Samuel, chapitre 12, verset 24. « Seulement, craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez les grandes choses qu'il a faites en votre faveur. » Si vraiment on s'arrêtait à penser à ce que le Seigneur a fait pour nous, la libération qu'il nous a donnée de nos péchés, la vie éternelle et l'ensemble des bénédictions qu'il déverse sur nous. Parce que si je recule de 40 ans, je regarde mon état d'âme que j'avais à cette époque-là, je m'en souviens très bien. Hein. Puis je regarde l'état d'âme que j'ai aujourd'hui, là. Ben, c'est pas moi, c'est pas mon travail, c'est pas ma psychologie, c'est pas ma découverte, c'est pas mes lectures, c'est sa grâce. Alors, si on se rend compte vraiment de ce que le Seigneur a fait pour nous, la moindre des choses, c'est de lui témoigner de la gratitude. Alors, c'est aucunement un fardeau de servir le Seigneur lorsque nous nous souvenons des grandes choses qu'il a faites pour nous. Alors, voici Donald Whitney dans son livre, donne encore un petit bout de phrase, deux paragraphes que je trouve très intéressant pour nous parler de cela. Encore une fois, j'ai pris la traduction Google. Il dit, « Vous souvenez-vous de ce que c'était de ne pas connaître le Christ, à être sans Dieu et sans espoir? Vous souvenez-vous de ce que c'était que d'être coupable devant Dieu et non pardonné? Vous souvenez-vous de ce que c'était que d'avoir offensé Dieu et de ressentir le feu de sa colère contre vous? Vous souvenez-vous de ce que c'était de n'être qu'à un battement de cœur d'être condamné à l'enfer? » Ça, c'est spécial. Hein? On parle des fois du sermon de Jonathan Edwards qui voyait les gens qui se promenaient. Puis il compare ça à un plancher de bois pourri. Les gens, c'est une réalité. Ça. Les gens se promènent autour de nous, ils ne sont pas sauvés. On devrait les voir comme des gens qui marchent sur un plancher de bois pourri, qui risquent de tomber. C'est ça qu'il dit. Vous souvenez-vous de ce que c'était que de n'être qu'à un battement de cœur, d'être condamné à l'enfer? C'est ça qu'on était. Maintenant, vous souvenez-vous de ce que cela fait de voir Jésus-Christ avec les yeux de la foi et de comprendre pour la première fois qui il est vraiment, ce qu'il a fait par sa mort et par sa résurrection. Vous souvenez-vous de l'expérience du pardon et de la délivrance du jugement et de l'enfer? Vous souvenez-vous de ce que c'était au début, lorsque vous avez eu l'assurance du ciel et de la vie éternelle? Souvent, c'est une affaire qui arrive avec les années. Des fois, au début, là, on pète de joie, comme on dit, au début de notre salut. Mais avec le temps, on dirait, je sais pas ce qui se passe, on se refroidit. Et là, on n'a plus cette appréciation. Lorsque le feu du service de Dieu devient froid, réfléchissez aux grandes choses que le Seigneur a fait pour vous. Troisième motif de servir le Seigneur, par joie. Alors, on se devrait de continuellement servir le Seigneur ayant le cœur rempli de joie. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je le sais par expérience. Puis, dès qu'on a quelques années d'expérience, on sait qu'on n'a pas toujours servi avec joie. Des fois, on sert en chiolant un petit peu, puis c'est pesant, puis je suis fatigué, puis ci, puis ça. Mais c'est un privilège que de servir le Seigneur. Néhémie, chapitre 2, versets 1 et 2. « Et il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or, devant lui, je n'étais jamais triste. Mais le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? Cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. Alors je craignis fort. » À l'époque, les chansons, c'était un poste important parce que c'était un poste où tu goûtais le vin avant que le roi en boive ou que tu goûtais la nourriture. C'est très important comme poste. C'était un poste de très haute confiance. Quelqu'un qui servait le roi et qui avait l'air triste, maussade, il risquait tout simplement sa vie. Imaginez, nous, on est des hommes, et c'était des hommes qui servaient des hommes. Peu importe que le roi, c'est-à-dire roi très puissant pour l'époque, très riche, mais c'était quand même juste un homme. Et nous, on est capable de se présenter devant le roi de l'univers et de faire un service en babounant. N'est-ce pas qu'on est capable de faire ça? Et pourtant, à l'époque, un roi humain, si tu avais le malheur de te présenter puis d'avoir la baboune devant lui, souvent c'est ça qui arrivait. Hein? Ah, t'es pas content de me servir? Il les zigouillait, tout simplement. Puis nous, on est capable de servir en chiolant contre le Seigneur. Alors, il était extrêmement risqué de servir les rois de l'époque de Néhémie. Ici, c'était le roi Artaxerxès, avec un air triste. Un serviteur pouvait être exécuté pour avoir servi le roi dans un état de tristesse. Parce que cela était interprété comme une rébellion de servir ou une insatisfaction de son sort ou de la manière dont le roi menait ses affaires. Autrement dit, si tu avais la baboune, c'est parce que tu considérais que le roi menait pas ses affaires comme du monde. C'était drôlement dangereux de faire de pareilles observations devant les rois de cette époque-là. Alors, rappelons-nous toujours que de servir le roi de l'univers, nous, on ne sert pas un roi humain, peu importe son degré de puissance ou de richesse, on sert le roi de l'univers. Et je suis tellement pleinement convaincu qu'on ne sait pas vraiment qui on sert. On le sait, parce que les Écritures nous le disent, on sait que c'est Dieu infiniment bon, infiniment sage, infiniment... Mais comprendre la grandeur... Si on comprenait la grandeur de Dieu d'un coup sec quand on le sert, là, on tomberait sur nous. Pas pour rien dans les Écritures, les gens qui étaient placés devant le Seigneur, là, ils tombaient sur leur face. C'est ça qui nous arriverait. Alors, psaume 84, verset 11, pour nous rappeler que de servir le roi de l'univers, c'est un immense privilège. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aime mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes des méchants. Quatrième motif, à cause du pardon. On a dans Isaïe, chapitre 6, versets 5 à 8. Isaïe 6, c'est un passage à relire parce que Isaïe était en train de s'était rappelé de tout les choses, les péchés des alentours. Et là, il était placé devant Dieu lui-même. Et là, quand il a vu le Seigneur, il a vraiment eu... Alors, voici ce que ça dit. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Maintenant, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui sera notre messager? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » On voit, il y a un lien direct ici, entre le fait que la personne réalise que son péché est effacé et ensuite son désir de servir. Parce que il commence par, quand l'ange lui touche les lèvres avec le charbon, le charbon ardent, c'est vraiment l'idée du jugement du Père sur le Fils. Et c'est comme, autrement dit, ton péché a été payé à cause du Christ, à cause que le Christ a subi l'équivalent sur la croix. Ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui sera mon messager? » Et je dis, me voici, envoie-moi. Alors on voit vraiment, le pardon nous incite à vouloir servir le Seigneur. Les héritiers du ciel, servent le Seigneur simplement par gratitude. Ils n'ont pas de ciel à gagner ou de ciel à perdre. Ils servent par amour pour Dieu. Les véritables croyants ne servent pas Dieu pour être pardonnés, mais parce qu'ils sont pardonnés. Très intéressant. Si les croyants servent le Seigneur parce qu'ils se sentent coupables, ils font fausse route. Nous servons volontairement et joyeusement parce que la mort de Christ nous a libérés de la culpabilité du péché. Et on va faire encore un autre et on va arrêter après. Par humilité, Jésus nous a laissé un modèle de service lors de sa venue sur terre. Chaque évangile nous présente un aspect de son œuvre sur la terre. Ça, c'est intéressant parce que les premières fois que tu prends conscience de ça, c'est que chaque évangile a un thème majeur. Et ici, on a vraiment les quatre évangiles avec le thème majeur de l'évangile. Par exemple, quand on prend Matthieu, c'est vraiment l'œuvre du roi Jésus. Si on voit que dans l'ensemble de Matthieu, c'est vraiment l'accent est mis sur la royauté. Dans Luc, c'est l'œuvre de l'homme Jésus. Donc, Jésus était aussi un homme. Dans Marc, l'œuvre de serviteur. Alors, si on voudrait étudier un petit peu plus en profondeur comment Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, a servi son Père, l'accent du troisième évangile, Marc, c'est vraiment l'œuvre du serviteur Jésus. Jésus, on met l'accent surtout sur le serviteur dans Marc. Et dans Jean, c'est l'œuvre de Dieu Jésus. Alors, dans l'évangile de Jean, on présente surtout Jésus comme étant divin. Quand on lit les quatre évangiles, de haut en bas, le roi Jésus, l'homme serviteur qui est Dieu, c'est vraiment, ça donne tous les aspects de son ministère dans les quatre évangiles. Jean 13, versets 4 à 17, on parlait d'humilité, que le Seigneur nous a donné l'exemple par excellence d'humilité. Se levant du souper, ôta son manteau et, ayant pris un linge, il s'enseignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? » Jésus répondit et lui dit, « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras par la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds, puisqu'il est entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui était celui qui le trahissait. » C'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur reprit, il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Notre service ne doit être motivé que pour recevoir de la gratitude, des honneurs ou des applaudissements. Nous ne devons faire des choses dans l'espoir de recevoir de la part des autres ou de s'attendre à de la réciprocité. Autrement dit, on ne doit pas faire quelque chose à quelqu'un ou dans une église dans l'espoir qu'il y en a un qui vienne te faire autant pour toi. Nous ne devons pas servir avec le désir d'en profiter, mais dans le but de ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, on va arrêter là. Pour aujourd'hui, on terminera la semaine prochaine.